Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Daniel, vous ouvrez cette matinale spéciale consacrée aux 2 ans de la guerre depuis le 7 octobre 2023 et les massacres perpétrés par le Hamas. Alors, on va commencer, on va faire un bilan de ces 2 ans, Daniel. Premièrement, comment sont perçus ces 2 ans de guerre du côté israélien?
Alors, je vais faire ce qu'on fait à conversation, c'est un bilan géopolitique, un petit peu désincarné, parce que je pense que beaucoup de commentaires que vous aurez tout au long de la journée seront consacrés aux sentiments, aux ressentiments des gens. Moi, je vais vous faire une analyse un petit peu froide des choses. Du point de vue d'Israël, ces 2 ans, c'est incroyablement contrasté. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une victoire militaire qui a dépassé les rêves les plus fous des dirigeants israéliens, quand on réfléchit bien, à savoir que deux événements ont eu lieu qui étaient à la fois totalement indispensables et qui étaient perçus comme impossibles. Le premier, c'est évidemment la destruction des sites nucléaires iraniens. Il faut toujours avoir ça en tête, cette guerre des 12 jours. C'était l'incroyable et l'impossible qui a été fait. Alors, on ne parle plus très bien des dégâts réels, etc., mais on peut penser que les dégâts ont été sérieux. L'autre, ça a été la destruction de l'autre menace, la plus importante perçue par Israël, c'était la menace du Nord, la menace du Hezbollah, les 150 missiles dirigés contre Israël et qui avaient pour but justement d'empêcher Israël d'attaquer l'Iran. Et ces deux menaces ont été liquidées assez rapidement et de façon spectaculaire. D'une part, il y a eu cet épisode des Beepers, absolument incroyable, du Mossad. Et puis, pour la guerre contre l'Iran, ça a été la guerre aux côtés des Américains. Ça aussi, c'était un impensable. Donc, c'est sûr, et cette victoire est tellement forte que, je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais le 15 septembre, lorsque à Doha, les pays arabes se sont réunis pour faire le bilan de l'attaque israélienne manquée sur le quartier général du Hamas, manquée mais pas tout à fait, ce qui s'est exprimé, c'est une espèce de peur d'Israël, de description d'Israël comme étant l'hyperpuissance du Moyen-Orient, voulant conquérir tout le Moyen-Orient, menaçant, disait Erdogan, la Turquie, n'importe quoi, au point de proposer l'organisation avec le Pakistan d'une sorte d'OTAN du Moyen-Orient, ce qui suppose l'intervention des Américains. Et c'est ce qui a eu lieu d'ailleurs, puisque les Américains viennent de proposer au Qatar d'être leur garantie. Mais évidemment, tout ça est du fantasme. Israël n'a l'intention d'attaquer personne. Et ils n'ont pas attaqué le Qatar, ils ont attaqué quelques bureaux. Donc, si vous voulez, cette victoire, elle est écrasante, mais elle est complètement occultée du point de vue des Israéliens par toute cette guerre de la communication qui a été terriblement perdue par Israël, qui a l'impression de n'avoir jamais connu depuis 1948 un tel isolement et une telle diabolisation. Donc c'est l'envers de la médaille et qui rend évidemment l'opinion publique israélienne et tout le peuple juif extrêmement malheureux avec cette guerre de communication conçu par l'islamisme, financé par l'islamisme, relayé par tout ce que l'Occident compte de gauchistes plus ou moins avoués et de têtes sans cervelle qui aujourd'hui voient dans le palestinien une espèce de fantasme qu'on a du mal à comprendre. Juste relativiser aussi bien la victoire que cette défaite. La victoire n'est pas totale parce que tous les ennemis sont toujours là et tous les ennemis ne pensent qu'à une seule chose, c'est prendre leur revanche. Le Hezbollah, l'Iran, etc. Donc ça, c'est la première réserve. La deuxième, c'est que il faut pas exagérer non plus l'état d'isolement et l'état de diabolisation d'Israël et des Juifs et de l'antisémitisme. L'antisémitisme, il est bridé par les gouvernements, par les organisations juives elles-mêmes qui font le travail de protection nécessaire. Et puis même toute cette diabolisation, et il faut bien voir qu'il y a un effet de loupe. Elle est uniquement le fait de minorités, d'extrémistes, et souvent d'ailleurs d'Arabes ou de Palestiniens qui sont émigrés dans tous les pays et qui passent leur vie à défiler avec des drapeaux. Et il suffit d'avoir une centaine de personnes pour qu'immédiatement toutes les caméras se braquent. Il y a cet effet de loupe qui donne l'impression que le monde entier est contre Israël, alors que le monde entier a bien d'autres chats à fouetter, ils ont leurs propres problèmes. Donc voilà ce qu'il faut réaliser.
Justement, vous parlez hein, du monde entier, Daniel, on le dit souvent dans conversation, Israël est un peu isolé, voire carrément isolé dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on tire comme bilan de ces 2 ans de guerre dans le monde?
Mais si vous voulez, le monde s'est occupé de lui-même et a toujours considéré que ce qui se passait autour d'Israël était tout à fait marginal. C'était pas le plus important. D'ailleurs, quand vous ouvriez vos télévisions, on parle surtout de la guerre russo-ukrainienne, beaucoup plus que de la guerre au Moyen-Orient. Disons que les 2 dernières années, si je devais résumer ce qui s'est passé dans le monde, c'est l'aggravation de la fracture du monde. Ce qui était au départ une confrontation entre les Américains et les Chinois est devenu une confrontation entre 3 blocs. Le bloc occidental, lui-même d'ailleurs divisé un peu à cause de Trump, hein, qui donne des coups de boutoir sur ses alliés, qui veut les vassaliser au fond, et ils n'ont pas envie de se laisser faire, en tout cas pas tous. En face, vous avez 3 puissances nucléaires qui se sont un peu coalisées, l'Iran, la Russie et la Chine, mais il faut bien voir que ce n'est pas une alliance, que c'est un partenariat de circonstances et qui n'attend que d'autres circonstances pour se défaire. Et donc, et le troisième groupe, c'est ce groupe très important du Sud global, tous ces pays à la fois pauvres et autocratiques, qui ont en commun la détestation de l'Occident et sur base d'anticolonialisme mal digéré, et pour qui Israël est devenu un peu le symbole de l'Occident et du colonialisme. Bon, et tout ça donne cette impression c'est plutôt cette attitude du Sud global qui donne cette impression d'isolement et diabolisation. La Chine, la Russie ont bien d'autres chats à fouetter que le Moyen-Orient. Donc, disons qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Et donc, finalement, ces blocs, aujourd'hui, ils ont 3 lieux de confrontation. Ils ont l'Europe, qui est le principal lieu de confrontation, avec une escalade en ce moment très importante, avec au bout cette Troisième Guerre mondiale en filigrane, qui n'arrivera pas, mais dont on parle. Et qui n'est pas du tout le cas avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ça ne dégénère pas. En Asie, la focalisation se fait autour de la question de Taïwan, qui est une question un petit peu absurde, et il n'y aura pas de guerre autour de Taïwan. Et le troisième lieu, évidemment, c'est le Moyen-Orient.
Oui, pour conclure, Daniel, il nous reste 2 minutes. Si on devait synthétiser tout ça.
Écoutez, on est en train de finir la guerre de Gaza, c'est une question de jours, de semaines, peut-être de mois, on ne sait pas encore, mais ça va finir. Et donc, ça sera le temps de construire. Et construire, ça veut dire construire sur 2 bases très claires. Vous avez au Moyen-Orient 3 puissances musulmanes, la Turquie, l'Iran et les pays arabes, qui sont un peu d'égale importance en quantité numérique, qui ont tous les trois été des anciens empires, qui sont tous les trois très ambitieux. Deux de ces puissances sont islamistes, c'est la Turquie et c'est l'Iran. Et la troisième sont des pays musulmans, qui sont les leaders en fait du monde musulman, puisqu'il y a des lieux saints, etc., mais qui ont choisi un de reconnaître l'existence d'Israël, de privilégier la prospérité par rapport à la guerre, et donc qui fait que Israël, avec les Américains et avec les Européens, a tout intérêt à s'allier à ce bloc de pays arabes qui ont envie de paix, plus que les autres. Et donc, au fond, si je devais finir d'une minute, c'est de dire, faut relancer les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est la quintessence de ce qu'a fait Trump, et c'est pour ça que Trump y tient beaucoup, et qui est la réconciliation du monde arabe avec l'Occident, en fait, avec tout l'Occident. Et donc, Trump s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite, c'est très important au mois de mai dernier. Il reste le plus sûr allié d'Israël, et c'est ce triumvirat Amérique, Israël, pays arabe, qui doit reconstituer une force, et pour faire barrage à l'Israël. l'islamisme mondial. C'est ça l'enjeu. Et donc, il faut attendre la fin de la guerre de Gaza pour que se mette en place cet objectif stratégique géopolitique extraordinaire qui passe par une solution de la question palestinienne qui n'est pas forcément une solution à deux États, qui est une solution temporaire. Aujourd'hui, on parle d'une sorte de mandat. Je pense qu'on finira par ça et qui prendra d'ailleurs des décennies avant de voir un éventuel embryon d'État en Palestine, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout envisageable, et en tout cas pas par, non seulement pas par Israël, mais même par les États arabes.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans nos conversations et puis on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt, au revoir.